Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Dans le cadre de l'année Saint-Joseph et à l'approche de ce 19 mars, nous vous proposons de découvrir, au travers de trois reportages, la vocation, la mission, le charisme de quelques-unes de ces congrégations qui, dans notre région, portent le nom de Saint-Joseph. Après les carmélites de Saint-Joseph de Saint-Guilhem-le-Désert, nous voilà aujourd'hui à Gaillac, dans cette maison où le 25 décembre 1832, Émilie de Vialard, née dans cette même ville en 1797 en pleine Révolution française, fondait là une nouvelle congrégation religieuse, les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Ironie du sort, dessein de Dieu, il m'aura fallu faire un pèlerinage en Israël, être hébergé quelques jours à Kiryat Yearim, tout auprès de Jérusalem, au sein d'une communauté des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, pour découvrir qu'une communauté, fidèle à la spiritualité de sa fondatrice, vivait toujours là, à Gaillac, à l'ombre de l'église Saint-Pierre. Quelque temps après, je me retrouvais une après-midi dans cette ville des bords du Tarn, au sein d'une communauté internationale où l'on parlait bien des langues et sur laquelle veillait avec sollicitude Sœur Marie-Pascale, la responsable de la communauté, aujourd'hui disparue.
Ici, c'est la maison d'origine. Et c'est ce qui nous vaut d'avoir des sœurs de différents pays. En ce moment, comme je vous l'ai dit au téléphone, on a un groupe de membres associés à la congrégation australien.
Hello.
Alors,
oui.
Je suis très heureuse à être ici.
Votre prénom, alors ?
Prénom est Glenn.
Vous venez d'Australie ?
Oui, Australie, à Perth.
Et donc là, il y a une communauté de sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition.
Il y a une petite communauté.
De quelle manière vous engagez ? D'abord, pourquoi vous vous êtes engagée ?
Parce que c'est une histoire avec les sœurs, comme l'école de 15 années. Et après, toujours, nous avons visité les sœurs, regardé le travail dans les communautés. Et aussi, nous avons pris la spiritualité. C'est important, tous les associés.
Comment s'organise votre vie à la communauté? Quelle est votre place?
Nous avons un projet à Thaïlande, un autre pays, la mission des sœurs, là. Oui, which parishes?
We do work in
our parishes. Tous les dames travaillent dans les paroisses. Et aussi, connaissance de l'esprit de Saint-Emilie.
She's a saint for our times.
Oui, Émilie Vialard est un signe pour notre temps.
She's a saint for us. She was a strong woman.
Oui, c'était une femme forte.
No, you can go.
Bye-bye.
La congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition compte aujourd'hui près de 867 religieuses de 31 nationalités répandues dans les 5 continents et réparties en 12 provinces, 4 délégations et 161 communautés, dont celle bien sûr de Gaillac, qui vit aujourd'hui dans les lieux mêmes où Sainte-Émilie fonda la première communauté.
On peut monter à pied aussi, c'est pas loin, c'est au premier étage.
Alors là, on va où ?
On va à la salle de communauté, où vous allez voir un portrait d'Émilie, ancien. Je vous dirai pourquoi.
Donc voilà, donc ici, alors, juste en face de nous, donc voilà. C'est le portrait d'Émilie.
C'est le portrait d'Émilie. Alors c'est le plus ancien portrait, on est sûr, parce que bien sûr il n'y avait pas de photo à cette époque encore. Mais elle n'a pas le voile. Donc elle a, si on regarde le costume, c'est le costume des dames de l'époque, à peu près, avec le chapeau, hein, là. Et puis, sauf qu'on ne voyait pas les cheveux. Elle mettait un bandeau, tout ça, pour ne pas voir les cheveux. Mais sinon, c'était le costume des dames de l'époque avec simplement tissu très simple. Mm-hmm. Et puis, il faut quand même remarquer qu'elle a un tablier. Ce qu'on voit ici, là, c'est un tablier. Je pense que c'est par esprit de service. quand vraiment elles faisaient du travail matériel, mmh. elles mettaient autre chose par-dessus. Mais voilà, hein, donc elles étaient comme des dames, quoi, simples. Ce signe de service, bon, et puis la croix.
Et puis la croix.
La croix, oui, bien la sûr. Croix.
Donc là, c'était, elle avait déjà fondé la...
Là, elle avait déjà fondé,
elle avait déjà fondé la congrégation.
Oui. Mais après, peu de temps après, dans les premières années, on l'a obligée à mettre un voile. Donc après, elle avait un voile. On a dit, pour des religieuses, il faut un voile. Donc elle en a mis un. Mais sinon, au point de départ, c'était... Oui. Le costume des dames, mais en très simple.
Et vous-même, d'ailleurs, vous n'êtes pas un habit. Hein,
justement, moi, je ne suis pas... Et en France, alors, ça, l'habit, c'est très variable selon les pays. En France, en général, on n'est pas en habit, quoiqu'ici, à la communauté, il y en a une française. Bon, il y a Sœur Dorothy qui, en Birmanie, sont bien en habit. Mais il y a une française qui est en habit. Et sinon, on s'habille... Quelquefois, je dis, mais moi, je suis comme Sainte-Émilie, parce que je suis habillée comme les dames de mon temps, mais simple.
Ce qui lui permettait peut-être d'entrer plus facilement en relation avec ses semblables ou...
Non, moi, j'aurais plutôt vu le fait que elle, c'était pas une vie contemplative complètement qu'elle voulait. Donc, elle a d'ailleurs beaucoup lutté pour ça. Autant elle insistait sur le recueillement, autant elle ne voulait pas une vie cloîtrée. Elle voulait une vie ouverte aux autres, qui aille vers les autres. Bon, depuis Saint-Vincent de Paul, ça se faisait beaucoup en France, il y avait beaucoup de congrégations, mais elle, c'était aller vers les autres à l'étranger. À l'étranger, parce que à l'étranger, il y avait des gens qui ne connaissaient pas la foi chrétienne.
Et puis bon, c'était peut-être aussi dans l'esprit du moment, voilà, c'est le milieu du 19e siècle.
C'est l'expansion coloniale, et en même temps, c'est l'expansion missionnaire féminine.
C'est une pionnière, quoi.
C'est une parmi les pionnières, tout à fait.
Elle est allée, je crois, elle est partie en Afrique du Nord.
Oui, elle est partie en Algérie, parce que justement, un de ses frères était un des premiers colons d'Algérie. Et donc, voyant la misère des gens, il dit à sa sœur, viens ici, tu auras de quoi faire.
Il y a du travail.
Voilà, il y a du travail, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Et une femme forte et qui n'a jamais baissé les bras, et pourtant des difficultés, il y en a eu.
Oui, c'est vrai qu'elle avait un caractère très fort, parce qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'évêque d'Algérie, ici à Gaillac, avec son assistante. Bon, ce qui fait qu'elle s'est expatriée à Toulouse. À Toulouse, ça a été difficile aussi parce qu'elle n'était pas connue, c'était une grande ville, et puis les mauvaises langues de Gaillac n'étaient pas trop, trop loin non plus, enfin, etc. Donc, elle a fini par... C'est l'évêque de Marseille, Monseigneur de Masneau, enfin, Saint-Eugène de Masneau maintenant, qui l'a accueillie, lui, au contraire, très, très bien. Et donc, la fin de sa vie a été beaucoup plus... calme, voilà. Disons.
Et la mission, s'ouvrir à l'étranger, partir ailleurs, c'était sa vocation, son appel.
Ah oui, je crois. Plus j'étudie les lettres, plus je suis persuadée que c'est surtout faire connaître et aimer Jésus. Je pense que c'est surtout ça. Alors, évidemment, par le moyen qui pouvait être les siens, de témoignages, donc des moyens indirects, souvent, puisque c'était dans des pays... qui ne connaissaient pas du tout, quoi. Hein. C'est les pays musulmans, les pays où il y avait... Par exemple, elle a très vite vu en Algérie, où il y avait des musulmans et des juifs. Donc, bien sûr, elle s'est très vite rendue compte qu'il ne fallait pas parler de Jésus comme ça. Mais pour moi aussi, ce qui résume bien, c'est qu'un jour, un chef arabe a montré, en la voyant qui soignait des gens, des arabes très, très mal en point, il a montré le Christ qu'elle avait sa croix, hein, sur la poitrine, et il lui a dit « Celui-là est bien bon qui te fait faire ces choses ». Et là, je crois qu'elle était contente. Je pense. Hein. Il me semble que là, elle disait « Mon but est atteint ». Parce qu'elle s'est très vite rendue compte que ce musulman, il ne serait pas chrétien, il n'arriverait pas jusque-là, que déjà il reconnaisse que Jésus était un Dieu bon, était Dieu et qu'il était bon, c'était déjà, enfin je pense que pour elle c'était une réussite.
Depuis près de deux siècles, à travers plus de 25 pays, les religieuses de Saint-Joseph se font donc l'écho auprès de tous, sans distinction de religion, de race ou de condition sociale, de l'immense tendresse du Père pour l'humanité tout entière, partout. Les sœurs se mobilisent, répondant aux besoins les plus pressants. Écoles, hôpitaux, foyers. Et à Gaillac, que font-elles? Eh bien, comme dans toutes les autres communautés, elles sont au service, selon les mots des milliers de vialards, de l'humanité souffrante. Sœur Dorothy vient de Birmanie. À Gaillac, pour la 9e année, elle assure un service auprès des malades.
Ma mission, c'était pour voir ou vers les malades à domicile et à la maison de retraite et à l'hôpital.
Vous assurez les soins?
Je ne suis pas infirmière ni aide-soignant. Je suis visiteur, simplement, pour aller voir les malades et écouter ce qu'ils me parlent. Voilà. Et j'ai amené les malades à la messe. Ou s'il est malade, ce qu'il veut. S'il ne peut pas déplacer pour aller à la messe, j'ai porté la communion dans les chambres. Et à domicile aussi, c'est la même chose. J'ai écouté aller voir le malade. S'il le veut, j'ai porté la communion. Voilà, ça c'est ma mission ici. J'ai appris beaucoup de choses. On dirait que je suis allée voir vers les malades. C'est moi qui donne. Par exemple, j'ai pensé que je donne quelque chose, mais ce n'est pas du tout. J'apprends beaucoup de choses en voir avec les malades. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris pour ma vie spirituelle et ma vie de quotidienne. Voilà, j'ai gagné beaucoup. Voilà. À la place de donner, j'ai gagné beaucoup, je pense, personnellement. Parce que quelquefois, les malades, vous pensez elles sont... pitié, le malade, mais elles sont très fortes et vous donnent beaucoup de courage et vous donnent beaucoup de choses de leur vie passée. Voilà.
Oui, parce que Sœur Marie-Pascal, tout ça, c'était une des vocations, des missions d'Émilie de Vialard, être auprès des plus pauvres, des plus démunis, des malades.
Oui, mais en fait, qu'elle raconte justement quand elle a découvert sa vocation à Gaillac, c'était plus large que ça. Parce que les pauvres étaient quand même pris en charge à l'hôpital. À ce moment-là, ils étaient tenus par les sœurs de la congrégation de Nevers, où il y a eu Sainte Bernadette après. Mais elles, c'était tous ceux qui ont besoin. Il y a une de ces expressions que j'aime beaucoup, c'est l'humanité souffrante. Donc ça peut être des riches, mais qui sont pécheurs, elle disait, les pécheurs. Alors à son époque, elle disait aussi les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et puis, bien sûr, les pauvres malades et les enfants aussi.
Ouais, c'est toutes les pauvretés. Quoi.
Voilà, toutes les pauvretés, voilà. De l'âme et du corps, voilà, c'est ça qui est important. Parce que souvent, les pauvretés du corps, on y pense, et les pauvretés de l'âme, on ne pense pas toujours.
Bon, on va vous laisser aller, donc porter le Christ à tous ceux qui l'attendent aujourd'hui.
Voilà, c'est tout.
Une mémé qui est malade, là, qui m'a raconté son fils... La sœur qui va venir, elle a su que j'y viens. Ça me fait plaisir. Voilà. Elle a su que j'y viens. Elle attend.
L'éducation est une autre des missions des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. À Gaillac, les sœurs n'enseignent plus. Mais de la 6e à la terminale, elles assurent la culture religieuse auprès des élèves du collège et du lycée Saint-Joseph, dont les locaux jouxtent ceux de la communauté. Milieu d'après-midi, c'est l'heure de la récréation. Aujourd'hui à Gaillac, comment peut-on être... Est-ce qu'on peut être missionnaire ici à Gaillac?
À l'école, c'est très frappant. Étant donné le milieu, moi je dis, on est vraiment, du temps d'Émilie de Vialard, elle disait les infidèles. Alors bien sûr, on n'aime pas beaucoup ce mot-là, nous maintenant, mais si on voit l'incroyance ou du moins la non-pratique de la plupart des élèves qui franchissent le seuil de cette maison, on est vraiment en mission. Au niveau spirituel, c'est une... Bon, en plus de la mission éducative qui, ça, a été de tout temps. La mission éducative, faire grandir un enfant, c'est magnifique. Voilà.
Aujourd'hui, on parle peut-être davantage d'évangélisation. On parle beaucoup de la nouvelle évangélisation. Vous vous inscrivez dans cette démarche? C'est pour vous, c'est la même chose que la mission, l'apostolat d'Émilie de Vialard?
Oui, ça peut être. Ça dépend dans quel milieu on se trouve. Hein, parce que, par exemple, Sœur Dorothy, à l'hôpital, qui est l'hôpital municipal, s'adresse à des chrétiens, à ceux qui demandent la communion, par exemple, à ceux qui demandent. Bon. Tandis que ici, nous, à l'école, disons, nous recevons tout le monde. Des petits musulmans, des athées, enfin, bon, des non-baptisés, des baptisés, ce qui ne pratiquent pas du tout, bon, on reçoit tout le monde, et c'est justement, on évangélise, enfin, c'est, disons, c'est une première annonce. On fait à tout le monde la culture religieuse, moi j'y tiens beaucoup, et je dis même culture religieuse et pas culture chrétienne uniquement, parce que je fais quand même, moi je fais en sixième par exemple, ou même plus grand, on fait souvent référence à la religion musulmane, puisqu'il y a des musulmans. Et les élèves, pour pouvoir s'engager, il faut qu'ils connaissent. Donc nous espérons que sur ceux qui nous entendent, il y en a qui s'engageront, il y en a qui sont engagés déjà en paroisse, en catéchisme, etc. Ou dans des mouvements de jeunes, bon, il y en a. Mais sinon, la connaissance, on la donne à tout le monde.
Au collège et au lycée Saint-Joseph, Sœur Emiliane a la responsabilité de l'ensemble des cours de culture religieuse. Sœur Emiliane est guatémaltèque, un pays chrétien.
Quand mon pays, c'est plus, bon, on peut dire que c'est un pays chrétien, catholique, qui pratique. Hein.
La France, c'est plus un pays chrétien?
Je vois pas trop.
Oui, bon, je travaille pas trop avec, surtout avec l'école. Mais ils sont entre 38-40 élèves, peut-être il y a 2-3 qui pratiquent un peu la religion.
Mais justement, on parlait avec Sœur Marie-Pascale, c'est pas de la catéchèse, vous faites de la culture religieuse. Et même dans la culture religieuse, ils ne l'ont plus cette culture?
Non, non. Parce qu'en faisant un peu la culture religieuse, il y a vraiment des questions. Par exemple, il y avait une question qui se maintenait beaucoup, mais quelqu'un qui m'a dit, je suis baptisé, alors est-ce que je suis chrétien? Voilà des questions comme ça. Je viens de partir maintenant, je finis avec un groupe. Et la fille est en cinquième, elle est baptisée, elle a fait sa première communion, et elle a suivi un peu une autre à sa paroisse. Mais elle a dit, alors, est-ce que moi j'ai le droit de communier, j'ai le droit d'aller à la messe avec ce que je fais? Et je dis, bien sûr. Voilà des questions comme ça qui sont intéressantes aussi à discuter avec eux. Je sens que si les témoignages de nous, ça les aide beaucoup. Parce qu'en disant, parfois, ils me demandent, est-ce que vous allez à la messe? Je dis, je vais tous les jours. Tous les jours à la messe. Ah bon? Il est pour ça, les Antonio, quoi. Mais en même temps, ils disent, ah bon, alors on peut y aller à la messe tous les jours. Oui, on peut y aller à la messe tous les jours. Et tout le monde, c'est vous qui vous êtes religieuse. Je dis, non, tout le monde est invité à aller à la messe. Alors, il y a des questions, quoi, qui sont comme ça. Je pense que la culture religieuse, elle est là. Mais c'est parce qu'on l'a oublié un peu. On l'a oublié, mais il est là. Ça manque quelqu'un qui peut-être qui continue à la faire sortir et à la faire vivre. Je pense que c'est ça un pays. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de culture, mais il y a. La culture religieuse, elle est là, mais on ne s'intéresse plus. Il y a tant de choses aussi qui ça nous intéresse maintenant. Le consumisme, tout ça qu'il y a dans le monde. Ça.
Donc vous avez une très très lourde mission alors.
Bon, c'est intéressant. Ah oui. Je le vois tous intéressant. Que c'est pas trop facile parce qu'avec les Français... Il faut la maîtriser, mais je pense qu'à la fois, je suis bien avec eux, je suis contente, que ce n'est pas une mission facile, quoi, à cause de la langue, il y a une autre mentalité, une autre culture. Mais ça, à la fois, ça m'a aidé à rentrer dans une autre culture, de comprendre les autres. Parce que si je suis dans mon pays, nous, on ne se pose pas ces questions. Mais ici, en se posant ces questions, pourquoi faire ça, pourquoi aller, pourquoi, si je le fais, pourquoi je le fais, et comment je le fais, comment je le vis. Ma vie chrétienne, ma vie religieuse, ma vie de tous les jours.
Au sein de la communauté vivent aussi des sœurs étudiantes. 2 années durant, en moyenne, avant de repartir dans leur pays, elles apprennent à lire et à comprendre les textes laissés par Émilie de Vialard. Cécilia, Camilla et Sombrac viennent du Guatemala, de Birmanie et de Thaïlande. Mais comment, pourquoi des jeunes femmes d'aujourd'hui ont choisi de suivre le Christ au sein de la congrégation de Saint-Joseph de l'Apparition?
La première, c'était la sœur qui était missionnaire. Elle est restée avec nous depuis longtemps. Et de temps en temps, elle est allée dans mon village pour visiter les gens et les filles qui restaient avec nous dans la cour. Et dans ce temps-là, j'ai frappé sa vie parce qu'elle était très, très simple de vivre, de rester avec nous. Et donc, par sa vie, par sa exemple, j'ai essayé de de la Suède. Et quand il était à Jean, il était avec notre sœur, le Saint-Joseph. Et comment dire?
Il y a des religieuses qui sont venues visiter oui. votre maison.
Et puis, elle apprend le catéchisme. Oui, oui.
Et pour moi, c'est simple. Et je crois que d'abord, il y a un appel de Jésus. Et je dis oui. Et après, pendant la formation dans la congrégation, j'ai connu surtout la spiritualité de notre congrégation et toutes ces choses pour éclairer ma vocation et suivre à Jésus. C'est comme ça.
Alors, Sœur Marie-Pascale, nous parlons depuis un petit moment justement de la spiritualité d'Émile de Viala. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un petit peu, de façon plus approfondie, cette spiritualité?
Alors, je vous dirai les piliers de la spiritualité de Sainte-Émilie. C'est d'une part, elle a prié beaucoup devant un tableau qui se trouve à l'église Saint-Jacques de Montauban. Elle ne le dit pas, hein, mais vu tout ce qui s'est passé après, on est sûr que c'est devant ce tableau. Un tableau qui représente l'apparition de l'ange à Saint-Joseph, quand l'ange fait comprendre à Joseph que l'enfant que Marie attend vient de l'Esprit-Saint. Et donc, je pense que ça, c'est un premier pilier de sa spiritualité. Elle a été frappée petit à petit par ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a envoyé son Fils unique. Et la deuxième chose, c'est quand à l'église Saint-Pierre, qui est là à côté, un jour où elle faisait une visite au Saint-Sacrement, elle a eu la vision de Jésus avec les cinq plaies. Et je pense que ça a complété. Jésus a tellement aimé les hommes qu'il a donné sa vie pour eux. Et donc, moi aussi, je dois donner ma vie pour les autres. Et il y a aussi le lien très fort, quand on pense à cette vision à l'église Saint-Pierre, il y a le lien très fort entre l'Eucharistie et le sacrifice de la croix. Puisqu'elle faisait une visite au Saint-Sacrement, donc elle priait Jésus hostie, et elle dit elle-même, ce qui est très bien pour nous parce que ça la rapproche de nous, que quelquefois elle avait des doutes sur cette présence réelle de Jésus dans l'hostie. Et il me semble que sa vision, c'est un peu comme si Jésus lui donnait la réponse. Tu vois, tu es en train de me prier, moi, dans l'hostie, mais c'est bien moi, le même, qui ai donné ma vie pour toi. Et donc, toi, fais pareil.
Alors, si je vous suis bien, sa vie, elle est partagée, je veux dire, entre le faire et l'être.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est la contemplation qui mène à l'action, hein. Et elle insiste beaucoup, là, dans les premières constitutions aussi, ou même les premières lettres, enfin les lettres qu'on étudiera l'année prochaine, là, hein, que les sœurs puissent avoir des temps de silence. Le silence, elle insiste beaucoup sur le silence, mais le silence pas pour le silence en lui-même, mais pour pouvoir contempler, pour pouvoir penser à Dieu, et ne pas gêner ceux qui, par exemple, n'ont pas le même emploi du temps. Alors ça, c'est encore plus vrai de nos jours, où nous avons des emplois du temps très très différents. Mais voilà, hein, respecter pour qu'on ait du temps de recueillement. Elle dit que le recueillement est l'esprit propre de la congrégation.
Donc là, on se dirige vers la chapelle. Oui, venant de rentrer dans l'église Saint-Pierre.
Donc c'était la paroisse de Sainte-Émilie. Et c'est là, alors qu'elle faisait une visite au Saint-Sacrement, c'est sur l'autel, donc l'autel du fond, qu'elle a eu cette vision du Christ avec les cinq plaies, qui a été, je pense, un facteur déterminant pour sa vocation.
On va peut-être s'avancer, vous m'aviez parlé des reliques.
Oui, voilà, c'est une châsse qui contient des reliques de Sainte-Émilie, en ailleurs. Hein. Mais Sainte-Émilie, après sa vie mouvementée, est donc morte à Marseille. Et quand on a voulu commencer la cause de béatification, on a ouvert le tombeau, le corps n'était pas décomposé, mais une fois qu'il a été ouvert, après la deuxième fois, il était décomposé. Donc du coup, on a mis certains restent dans, là, c'est dans le polochon, là, et puis d'autres ont été dans des reliquaires, enfin bon. Et donc la statue, là, est en cire.
Et ici, aujourd'hui, avec les habitants de Gaillac, ils ont un attachement. Est-ce que vous le sentez, cet attachement à Émilie ?
Oui, on le sent, mais c'est un peu varié. Enfin, c'est, je veux dire, il y a tout un groupe, les chrétiens, oui. D'ailleurs, les prêtres citent Sainte-Émilie à chaque messe, donc les chrétiens, oui, mais les Gaillacois, pas pratiquants et tout ça, non. Pas trop. Sauf quand il y a des grandes fêtes. En 97, il y a eu les 200 ans de la naissance d'Émilie. En 2006 aussi. Bon, alors là, tout le monde se mobilise un peu, quoi. Hein. Mais sinon, les Gaillacois chrétiens pratiquants ou assez pratiquants, bon, s'ils connaissent Sainte-Émilie et aiment Sainte-Émilie.
Aujourd'hui, à Gaillac et dans plus de 25 pays à travers le monde, les religieuses de Saint-Joseph de l'Apparition font toujours leur ces mots de Sainte-Émilie. Allez, et avec ce que vous avez, faites tout le bien que vous pourrez. Émilie de Vialard, sainte locale, sainte universelle, une femme de son temps, une femme de notre temps.